carrefour des arts. On retrouve Christa Leuc.
Carrefour des Arts se concentre aujourd'hui sur le personnage d'Hippolyte d'Este, cardinal de Ferrare, fils de Lucrèce Borgia et petit-fils du pape Alexandre VI. Ce doit être le seul cardinal à qui l'on puisse attribuer une aussi glorieuse ascendance. Mais si Hippolyte d'Este est au centre de cette émission, c'est surtout parce qu'il est à l'origine des fameuses fresques de Primatis qui décorent avec magnificence les murs de la chapelle Sainte-Marie à Chalis. À l'occasion de l'important chantier de restauration de ces fresques, l'abbaye royale de Chalis organise une exposition dans l'enceinte même du domaine sur le thème du cardinal Hippolyte d'Este. Canal Académie a le grand plaisir d'accueillir son organisateur, Jean-Marc Vasseur, chargé des actions pédagogiques et culturelles du domaine de Chalis. Monsieur Jean-Marc Vasseur, bonjour.
Bonjour.
Avant d'évoquer pour nos auditeurs ce personnage majeur de la Renaissance européenne du XVIe siècle et de lui rendre pleinement justice, nous voudrions d'abord vous féliciter pour votre exposition. On ne peut qu'être impressionné par la qualité documentaire dont vous avez su l'enrichir, et de même que par la qualité graphique de la présentation, réalisée avec une grande économie de moyens, mais aussi avec beaucoup de talent. Et cette exposition, vous l'avez intitulée « Le courtisan ». Pouvez-vous peut-être nous dire pourquoi, Jean-Marc Vasseur ?
Bien, tout d'abord, cette exposition sur Hippolyte est quand même très marquée dans la chronologie, à savoir que nous commençons dans les années 1536 et nous terminons dans les années 1541, c'est-à-dire au moment où Hippolyte reçoit la commande de Chalis. Alors pourquoi le courtisan ? Eh bien parce que Hippolyte nous apparaît comme effectivement l'archétype du courtisan tel qu'il est décrit dans le livre à succès de Baldassare Castiglione, nommé le courtisan, et qui nous donne en quelque sorte le modèle de l'homme de la Renaissance. Et on peut penser qu'Hippolyte finalement rentre parfaitement dans cette perspective. Pour le courtisan qu'était Hippolyte, comme pour l'homme de la Renaissance, donc on a une activité de jour qui est liée aux activités politiques, qui est liée aux activités qu'on va qualifier de sportives, c'est-à-dire les joutes, la courte paume, l'ancêtre de notre tennis, oui, mais peut-être oui. Nous en reparlerons, car Hippolyte était un très bon joueur de tennis. Et puis le soir, évidemment, c'était le loisir, l'osium, hein, c'est-à-dire qu'il fallait faire étalage de ses connaissances, de son savoir-faire, de son savoir danser par exemple, de son savoir chanter, mais aussi en même temps garder toujours une espèce d'autodérision. Ce que les Italiens, et nous avons beaucoup de mal à traduire ce terme, appellent « asprezzatura ». C'est-à-dire on se moque un peu de soi-même pour ne pas se prendre toujours au sérieux, tout en faisant quand même entendre qu'on est une personne tout à fait digne d'intérêt.
Oui, ben, ça se faisait encore jusque dans les siècles plus tardifs.
Oui, on peut considérer déjà que la vie de cour s'inscrit parfaitement dans ce programme de Castiglione.
Oui, oui. Donc voilà pour Hippolyte le courtisan. Donc il était parfaitement à l'aise dans les activités, vous disiez, de la journée qui était concernée à la guerre, au sport et les activités de la soirée, c'est-à-dire consacrées à la fête.
Tout à fait.
C'était un parfait programme, je dois dire.
On ne va pas quand même insister sur l'aspect guerrier d'activité d'Hippolyte. Il ne faut pas oublier qu'il est archevêque et cardinal et qu'il ne va pas se distinguer quand même, lui, les armes à la main. Mais par contre, il passera beaucoup de temps, évidemment, et il exploitera son talent sur le jeu diplomatique européen.
Il était déjà cardinal quand il était appelé à Chalis, ou il était encore archevêque ?
Non, quand il arrive à Chalis, il est déjà cardinal. Oui. On peut considérer qu'il obtient le chapeau cardinalis entre 1538 et 1539. Les choses ne vont guère vite parce qu'il y a toute une procédure à suivre. Et il a ce qu'on appelle la bouche ouverte, c'est-à-dire qu'il a effectivement le droit à la parole qu'à partir de 1539. Quelques mois plus tard, donc il revient en France en 1540, il est à Fontainebleau et son retour est tout à fait fastueux. Auparavant, il ne faut pas l'oublier, dès l'âge de 10 ans, à peine 10 ans, il était déjà archevêque 2000 ans.
Difficile à imaginer. Même un peu plus jeune, il était déjà évêque, j'ai cru comprendre.
Et par la suite, alors là, on peut parler tout de suite de cet événement important que fut le Concordat de Bologne entre donc le pape et François Ier en 1516. François Ier veut d'arriver en Italie du Nord. Tout le monde connaît Marignan.
Oui.
Et donc, il en profite pour rencontrer le pape et ils ont des intérêts communs pour asseoir leur pouvoir sur le monde ecclésiastique. Et ils vont se partager en quelque sorte la nomination au titre de l'Église. Et c'est donc le roi de France qui, à partir du Concordat de Bologne, va nommer les abbés, va nommer les évêques, les archevêques de l'Église française. C'est dans le cadre évidemment de la mainmise de la royauté sur l'Église et au grand désarroi de l'université, par exemple.
Donc là, on a un peu avancé dans la chronologie parce que, pour l'instant, Hippolyte, on vient de le dire, a 10 ans quand il est nommé archevêque, 2000 ans. C'est
tout à fait,
encore une fois, assez étonnant. Mais dans votre exposition, pour revenir à cet événement, parce que vraiment c'est remarquable, dans cette exposition, vous nous présentez un Hippolyte d'Est aussi bien dans sa vie et dans son œuvre, vous nous apportez des informations extrêmement précises et précieuses sur son quotidien, sur sa maison, ses activités favorites. Enfin, on vient de les évoquer. Il aimait beaucoup le jeu de paume, le sport en général, la chasse également. Sur ses talents, ses goûts, qui reflètent d'ailleurs aussi les goûts de cette époque en général. Et vous nous renseignez sur son environnement, sur ses amis et sur ses influences artistiques. Alors, Hippolyte d'Este, cet homme de son époque, pourriez-vous, Jean-Marc Vasseur, nous le faire revivre encore une fois sur nos ondes de Canal Académie? Donc, il a 10 ans, on vient de l'évoquer quand il est archevêque de Milan. Et de quelle manière ou de quelle façon était-il lié à la monarchie française?
Alors, bon, il fait des études, j'ai oublié de le dire, mais il fait des études comme les grands de ce monde le font. Donc, il fait ses humanités, dirait-on, un petit peu plus tard. Et il se rappelait en France, en 1536, dans le jeu extrêmement complexe qui s'est installé en Italie du Nord, entre d'un côté l'empereur Charles Quint, de l'autre côté la papauté et puis François Ier. Et la ville de Ferrare, d'une façon traditionnelle, a été alliée de la maison de France. Donc c'est à ce titre que François Ier, en quelque sorte, va refonder cette alliance traditionnelle entre Ferrare et le roi de France. Et c'est à ce titre donc qu'il fait venir Hippolyte à la cour de Fontainebleau ou au Louvre.
Ou au Louvre, voilà, à Paris.
Tout à fait. Alors à propos de ce personnage, bon, il est jeune. Il aime les femmes, il aime sortir, il aime faire du sport. Et effectivement, il est un très grand joueur, on dirait de nos jours, de tennis. À tel point que quelques années plus tard, à Fontainebleau, François Ier demandera à Hippolyte de faire construire un cours de courte paume, certes. On va continuer par plus de facilité à appeler ça un cours de tennis, dans l'hôtel particulier que s'est fait construire Hippolyte, juste devant le palais de Fontainebleau. Et le matin, François Ier venait, comme on dirait de nos jours, taper la balle avec Hippolyte et partager le petit déjeuner, ce qui était un honneur tout à fait exceptionnel. Pour l'autre côté, on pourrait aussi, après le sport, parler de la gastronomie. Hippolyte est un gastronome distingué. Et on a eu la chance de retrouver dans les archives de Modène et de Ferrare quelques exemples des menus qu'il avait offerts, à la fois d'ailleurs à Ferrare et un petit peu plus tard à Lyon ou à Fontainebleau. Par exemple, en 1529, il n'a que 20 ans, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, il est né en 1509.
Oui,
1509.
Ferrare.
Alors donc, on a retrouvé le menu qu'il avait offert à René de France. Et là, il faut que je m'arrête un petit peu sur un point de la chronologie de sa propre famille, mais aussi du duché de Ferrare. René de France, c'est tout simplement, si j'ose dire, la fille d'Anne de Bretagne,
oui,
et du roi de France, Louis XII. Et René de France,
dans son deuxième mariage,
vient d'épouser le frère d'Hippolyte. Le frère d'Hippolyte s'appelle Hercule II.
Oui.
Et Hippolyte décide d'offrir à Ferrare un banquet tout à fait exceptionnel aux jeunes mariés. Donc lui a 20 ans, on est en 1529. Et on a la description des différents plats. 18 services vont se succéder les uns derrière les autres, avec à l'intérieur aussi des, on dirait des sous-services en quelque sorte, et à chaque fois était précisée la musique qui devait être jouée en accompagnement des plats, mais aussi la scénographie qui était mise en place sur la table, mais aussi tout autour, à l'environnement du repas qui avait lieu en plein air dans les jardins de Belfiore.
Ça mériterait vraiment un film pour déguster avec son imaginaire tous ces 18 plats. Ça consistait en quoi, en gros?
Il faut quand même savoir que le repas dura environ 7 heures. Pour chacun des services, il fallait compter entre 7 et 8 plats différents. Par exemple, au premier service, les premiers plats étaient des salades d'asperges avec des anchois aux herbes, mais aussi des biscuits au beurre d'amande et avec des pâtes. Il y avait ensuite un plat principal, très souvent un poisson. Faut pas oublier qu'on est ici dans la vallée du Pô, hein, et donc on va utiliser les ressources locales. On avait souvent des plats de d'esturgeon bouilli. La sauce était ce qu'on appelle une sauce rouge, légèrement pimentée. Le plat étant lui-même en général décoré avec les armes d'Hippolyte. Hein, on peut imaginer un peu tout cela. Quant à la musique, eh bien là aussi, on précise que avec cela, il faudra écouter une musique assez emphatique, jouée par des trombones, mais aussi par des cors. Hein. Donc on entend sonner les cuivres en même temps qu'on déguste l'esturgeon.
C'était une musique dansante.
Oui, mais on reste quand même installé à table. Hein. D'ailleurs, il y aura deux desserts. Et cette grande table, d'ailleurs, était couverte de trois nappes superposées. Chacun avait devant lui sa serviette, un couteau et puis un petit pain roulé.
Oui. Ah oui, et on avait un couteau à l'époque.
Voilà, un couteau. Il y avait aussi les salières. On connaît le rôle des salières sur une table. Hein. Et si la salière dont on parlera peut-être plus tard, la célèbre salière de Cellini,
elle a toute une histoire. Voilà. Et moi, en tant que viennoise, l'ai pleuré à un moment donné quand elle a été dérobée du Grand Musée des Beaux-Arts de Vienne. Ouais. Mais heureusement, elle l'a retrouvée.
Voilà, elle est revenue. Alors, le 9e service, comme ça, 1000 huîtres sont offertes au départ, accompagnées d'oranges ou bien de poire. Et puis à ce moment-là...
Vertu digestive.
Je ne suis pas assez spécialiste. Je sais simplement qu'en même temps, on avait fait sonner les cornemuses.
On aimait faire la fête. Hippolyte était un grand maître dans cet art de la table.
Tout à fait.
Et dans beaucoup d'art d'ailleurs.
Ouais. Justement, on va passer au dessert. Au dessert, ça sera la fin. Hein. Les fruits confits. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on mangeait beaucoup de concombres, par contre. Par exemple, des concombres confits. Nous, on ne serait pas habitués à manger ce genre de bonbons, en quelque sorte. Voilà. J'évite l'indigestion dont je parlais tout à l'heure.
Bon. Et puis, c'était arrosé d'alcool, quand même, ou?
Il y avait du vin, bien sûr. Oui. Il y avait du vin. Il y avait des vins qui étaient, en général, très chargés en épices. Un petit peu le souvenir des Hippocrates, évidemment célèbre du Moyen-Âge. On est quand même dans une période de transition. Hein. Les épices commencent à reculer, ou d'autres arrivent, et le goût aussi évolue pendant cette période.
En tout cas, je vous félicite pour votre travail de recherche, parce que pour retrouver le détail des menus du XVIe siècle avec la musique qui accompagnait, vraiment, félicitations. Vous avez une fibre d'archéologue gustatif.
Après le festin de Babette, après le festin de Babette, il faudrait faire le festin d'Hippolyte.
D'Hippolyte, oui.
Mais on n'est pas tout à fait dans un climat
identique. Donc on a évoqué notre Hippolyte qui aimait les femmes, les arts. Hippolyte aussi le collectionneur d'antiques, le passionné d'architecture. Alors là, on saute un peu à nouveau à Chalie, parce que là, on était à table en Italie,
voilà,
chez les d'Este à Ferrare. Je rappelle pour nos auditeurs, pour s'y retrouver, donc il s'agissait du menu du mariage de René de France,
voilà, et du frère
qui était devenue la belle-sœur d'Hippolyte d'Este, puisqu'elle a épousé le frère d'Hippolyte d'Este, qui est Ercole II. Nous voilà bien dans la généalogie. Je parlais d'Hippolyte, le collectionneur d'antiques, le passionné d'architecture. Il fait venir à Chalie le grand architecte Serlio.
Sébastien Serlio, oui. Sa visite est avérée en 1544 et 1546 par ce que nous connaissons des comtes de Mosti que l'on a retrouvés dans les archives de Modène. J'ai oublié peut-être quelque chose après le repas, c'est de dire, d'évoquer un
petit
peu...
Vous ne voulez pas quitter la table.
Non, mais je veux passer maintenant vers le voyage. Vous voyez, on reste encore dans les activités de loisirs. Encore que ce voyage est un peu particulier. On a retrouvé là aussi dans les archives des détails assez passionnants sur la façon dont le voyage d'Hippolyte s'est organisé de Ferrare jusqu'à Fontainebleau. Il devait donc rejoindre en 1536, à la demande du roi, il devait rejoindre ce dernier à Lyon, enfin à côté, à la Tour du Pin, et il se met en route, et ce n'est pas une petite promenade, c'est un véritable déménagement qui est organisé sur les 720 km qui séparent Ferrare de Lyon. La vitesse moyenne, on l'a calculée, est de 5-6 km/h et les embûches sont nombreuses. D'autant plus que les guerres, évidemment, sévissent et qu'il n'a ni confiance dans les armées à la solde de François Ier, ni dans celles de l'empereur. Il va même jusqu'à emprunter dans les Alpes le col Agnel, qui est un col extrêmement difficile, qui va lui permettre de franchir les Alpes et redescendre par la suite dans la vallée du Guil, Guiest, Embrun, toute cette région de Gap, après, qui va lui ouvrir la porte de la vallée du Rhône. Et en plus, il est lourdement chargé, il est accompagné d'un personnel conséquent, 117 personnes représentent sa maison. Hein, on a du mal à imaginer, nous qui prenons l'avion, n'est-ce pas, pour franchir rapidement les fuseaux horaires. Oui. Là, c'est un véritable déménagement, 117 personnes, 119 animaux. Ils montent soit à pied, soit sur des mules, soit sur des chevaux.
Ah bon, pas de voiture?
Non.
Et on transporte une grande partie de la maison de Ferrare en France.
Les lits sont démontés, mais carrément les meubles, les lits sont démontés, posés sur le dos des mules.
Impressionnant. Imaginable.
Oui. Et donc, c'est un travail assez extraordinaire d'organiser une telle aventure, en tous les cas.
Oui. Il est arrivé à bon port.
Ah oui, bien sûr. Il va rester un certain temps à Lyon, d'ailleurs, où il va s'établir. Il ne faut pas oublier qu'Hippolyte sera aussi archevêque de Lyon, hein, entre autres. Il va y rester quelques mois, profiter aussi des plaisirs. La rumeur nous dit qu'il aimait beaucoup la fréquentation des dames qui organisaient le passage sur la rivière Rhône. Hein, donc il y avait des dames qui ramaient, semble-t-il, et il aimait bien les retrouver. Bon, ça n'est qu'une anecdote.
Oui,
non,
mais on l'imagine beau garçon quand même.
Sûrement, oui. Sûrement, belle prestance.
On a un portrait de lui que vous avez bien sûr présenté dans votre exposition. Il a l'air d'être un galant homme, en tout cas.
Très soucieux de sa personne. Il a avec lui un barbier qui s'occupe gentiment de sa barbe et qui la parfume. Nous avons retrouvé, on a même essayé de la reconstituer, le parfum qui était utilisé par Hippolyte, par son barbier, pour parfumer Hippolyte.
Ah,
à
oui.
Base de cédrat, également de jasmin.
Ah bon, très vite.
Voilà.
Vous avez gardé un petit échantillon.
Oui, bien sûr, on a essayé de le faire puisqu'on avait les quantités.
Parce que vous faites aussi un atelier de parfum là-bas.
Tout à fait. C'était une façon aussi de lier le site avec notre recherche.
Ah, oui.
Pour le reste, évidemment, on va retrouver les parfums habituels qui sont utilisés à cette époque, c'est-à-dire l'ambre et le musc. Et les dépenses pour ces deux parfums sont considérables. Hein. Hippolyte aime bien offrir d'ailleurs des bijoux parfumés à l'ambre. Je pense au chapelet qu'il offre assez souvent. Et les grains du chapelet sont parfumés d'ambre.
Ah oui.
Et ça représente une dépense, je répète, considérable.
Oui, parce que l'ambre de tous les temps a été très précieux.
Tout à fait.
Donc il faisait venir de Pologne.
L'ambre gris, on peut le trouver en Atlantique. Au musc, bien sûr, il arrive d'Asie, importé par Venise.
Et à propos de cadeaux, je crois qu'à l'époque, on avait l'habitude de se faire de somptueux cadeaux et qui étaient d'ailleurs mesurés et jaugés selon leur prix. Ça avait une grande importance, n'est-ce pas?
Ah oui, lorsqu'en 1540, Hippolyte retourne donc de nouveau à la cour de Fontainebleau, il est véritablement chargé de cadeaux qu'il va distribuer à tous les personnages importants ou moins importants de la cour. Et pour vous donner une idée, la distribution des cadeaux va durer plus d'un mois. Et chaque cadeau est choisi avec discernement. Parfois d'ailleurs, Hippolyte s'est senti coupable de ne pas avoir au bon moment le cadeau prévu. C'est ainsi, par exemple, qu'il offre à François Ier toute sa collection de médailles antiques parce que ce satané Cellini a oublié ou n'a pas encore fait les cadeaux qu'il avait prévu d'offrir.
Mmh.
Entre autres, un épisode nous intéresse, nous, à Chali, à propos de Cellini. Vous savez que lorsqu'il monte en France en 1538, il oblige Cellini à rester à Ferrare et, sous bonne surveillance, à fabriquer ce que Hippolyte lui avait demandé.
Ouais.
Et entre autres, il lui a demandé un plat et une aiguère. Et il se proposait, évidemment, d'offrir ce plat et cette aiguère à François Ier. Donc Cellini ultérieurement arrive au Louvre et lors d'un repas assez curieux à la turque, comme on disait, Hippolyte offre à Fontainebleau l'aiguière et le plat à François Ier. François Ier, selon Cellini, est absolument ébloui par ce cadeau, remercie Hippolyte et en échange, on pense qu'il lui remet Chali. En quelque sorte, on aurait été échangé, si vous voulez.
L'énigme qui est levée.
Et on peut continuer, parce que selon Cellini, François Ier lui aurait déclaré quelque temps plus tard, avec une si belle aiguière et un si beau plateau, il me faut aussi une belle salière.
Ah oui.
Et voilà comment la commande a été faite. Et Cellini n'est pas du tout...
Il est en or, si je ne m'abuse.
Bien sûr, il n'est pas désemparé, parce qu'il avait déjà prévu la salière. Il avait prévu la salière, mais pour Hippolyte. Il avait d'ailleurs la cire avec lui. Et il fait semblant, évidemment, qu'il va tout créer en peu de temps. Et ce qu'il fait, Hippolyte n'est pas, évidemment, dupe. Je pense que la brouille va s'organiser déjà si elle n'était pas établie à ce moment-là. On connaît ensuite, bien sûr, l'histoire de cette célèbre salière.
Écoutez, je crois qu'après une telle évocation et devant tant d'excellence, une petite pause musicale va être la bienvenue, le temps de nous laisser reprendre notre souffle. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Marc Vasseur. Nous rappelons que vous avez organisé une exposition à l'abbaye royale de Chaly autour du cardinal de Ferrare, Hippolyte d'Este. Vous venez de nous faire revivre l'homme, en tout cas en partie. Et toujours avec vous, je suggère que nous le suivions maintenant dans son parcours. Peut-être pouvons-nous le reprendre à son arrivée en France. On vient d'évoquer qu'il était l'ami de François Ier. Hippolyte d'Este, qui nous intéresse en premier chef, c'est bien évidemment celui qui est nommé commendataire de l'abbaye de Chaly. Et cette commande lui permet de recevoir la majorité des revenus de l'abbaye. Mais comme vous allez certainement nous le montrer, Jean-Marc Vasseur, son goût fastueux enrichira et profitera largement au patrimoine culturel de cette abbaye. Et tout ça dans l'espoir fiévreux d'une grande visite, une visite royale, celle de François Ier, qui ne viendra jamais.
Ah oui, je crois que c'est un peu son désespoir. Il avait déjà espéré recevoir la cour dans une abbaye dont il avait eu la commande précédemment. Il s'agissait de l'abbaye de Saint-Médard de Soissons, qui est située à moins de 50 kilomètres à l'est de Chaly. Mais Saint-Médard de Soissons s'est avérée trop petite pour recevoir la cour. Donc, il a dû se contenter d'abriter simplement le dauphin, ce qui était déjà tout à fait remarquable. Et le reste de la cour a dû émigrer un peu plus loin pour s'installer. Il faut dire que c'était 3 000 à 4 000 personnes qu'il fallait pouvoir héberger. Alors, cette visite, évidemment, royale est attendue à Chaly pour, comme vous le disiez, pour 1544. Nous sommes en 1541 lorsque la commande de Chaly lui est attribuée et on peut penser que très rapidement les travaux s'engagent à la fois dans son hôtel, l'hôtel de l'abbé en quelque sorte, on pourra le nommer ainsi, mais aussi dans tous les bâtiments. L'hôtel de l'abbé, hélas, a disparu. C'est un bâtiment qui était situé entre le chevet de l'église abbatiale et la chapelle Sainte-Marie.
Et il a disparu.
Il a disparu. Il a été démoli, probablement pierre à pierre, au début du 19e siècle.
Ah oui, ce qu'on peut voir actuellement à Chaly, c'est-à-dire le château qui est devenu le musée de Nelly Jacquemart-André, c'était
le château
construit
18e, c'est construction 18e, première moitié du 18e siècle.
Oui. Excusez-moi, on reprend alors Hippolyte.
Alors, quand il arrive à Chaly, la première chose qu'il fait d'ailleurs, c'est qu'il écrit à son frère, il dit « Cette abbaye est bellissima ». Et en plus, ça doit être très intéressant pour la chasse. Faut pas oublier que, comme François Ier, il partage ce goût fort commun pour l'époque, de la chasse dans les bois et les forêts. Mmh. Hein, voilà.
Qui continue encore aujourd'hui.
Qui continue aujourd'hui, ça fait partie des activités qui ont traversé les siècles. Alors quand il arrive à Chaly aussi, il n'est pas dépaysé au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il retrouve un lieu marécageux, un fond de vallée humide aménagé, et on peut penser bien sûr à la vallée du Pô, avec ses multiples bras plus ou moins abandonnés en quelque sorte. Il va retrouver des dunes de sable, celles qui sont célèbres dans la mer de sable actuelle.
Oui. Ne sont
pas sans rappeler celles qu'on trouve à l'est de Ferrare, dans la Mezzola. Il va retrouver également des landes à peu près identiques. Donc finalement, c'est un domaine, sur le plan, je dirais, du paysage, hein, qui lui est familier. La première chose peut-être qu'il aura fait en arrivant à Chaly, c'est de mettre son nom, en quelque sorte. Et il fait installer ses armoiries un peu partout, à l'entrée, dans la chapelle... Et puis aussi, il fait mettre des serrures. C'est une façon de marquer aussi très nettement que on s'approprie les lieux. Et puis, comme c'est un homme de confort, bien sûr, il fait mettre des vitres aux fenêtres, hein, pour éviter les courants d'air, en quelque sorte.
Oui.
On sait aussi qu'il fera décorer quelques pièces, mais c'est encore très vague pour nous. Et puis, bien sûr, il va créer cette décoration intérieure de la chapelle Sainte-Marie de Chaly, qui, comme vous le savez, donc, est due à Primatis.
Qui est due à Primatis, mais que Hippolyte d'Este a fait venir de Fontainebleau, où il exerçait déjà ses talents.
Tout à fait, tout à fait. Il fait venir deux personnages extrêmement importants pour le monde artistique de cette époque. C'est Sebastiano Serlio, dont nous avons parlé au début de l'émission, et Francesco Primatis, qui sont effectivement à son service, comme ils sont aussi en même temps au service du roi, quand même. C'est avant tout dans le palais de Fontainebleau que ces deux artistes sont au travail, à tel point que Primatis va devenir, quelques années plus tard, le surintendant des bâtiments de France, de la maison royale. Alors, juste en face de Fontainebleau, il y avait donc ce fameux Grand Ferrare, cet hôtel particulier en quelque sorte, construit un peu l'archétype de l'hôtel particulier des siècles suivants, construit en face du palais dont il ne reste hélas que le portail, deux colonnes engagées, des prévaricateurs sans âme et conscience ont abattu ce qui restait du Grand Ferrare. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur, entre autres, Serlio et Primatis travaillaient de conserve à la fabrication des bains, avec la décoration de la stouffe, les tubes. Et donc, c'est tout à fait logique que l'on retrouve ces deux artistes à Chaly.
L'architecte Serlio et Primatis.
Voilà, pour Serlio, on sait que c'est sur ses propositions, sur son dessin en tous les cas, que le mur qui abrite actuellement la roseraie a été établi. D'ailleurs, ce mur étant établi, aussitôt après, Hippolyte fait planter un petit jardin. Un petit jardin Renaissance, et nous avons retrouvé quelques-unes des variétés végétales qui y sont installées. D'une part, on va garder des arbres locaux, et puis on va planter un petit peu à l'image de Pline, c'est-à-dire des aliments chauds et des aliments froids. Alors, les aliments chauds sont les aromates. Alors, en plus, il faut oublier que nous sommes devant un Italien. Parler de marjolaine, de parler d'origan, de romarin.
Basilic.
Voilà. On y fait également installer de nombreuses asperges. Parmi les plats dont je parlais tout à l'heure,
avec les asperges.
Ces fameuses asperges que dégustaient les Romains de l'Antiquité avec une huile parfumée à la rose, on va les retrouver aussi à la Renaissance. Et puis à côté de cela, il y avait les aliments froids, dont les salades et surtout la laitue. On peut pas faire plus froid puisque la laitue, on appelait ça l'herbe des morts. Cette laitue que Rabelais faisait venir à grands frais du Portugal jusque dans son Poitou, qui était déjà connue à l'époque de Charles V et Charles VI, mais quand même qui était exceptionnelle. Voilà, donc ça nous donne une idée, d'autant plus qu'on a aussi les constructions, à savoir une pergola, une volière avec des animaux, mais pris dans l'environnement, pas d'exotisme. Cette pergola, d'ailleurs, que je viens d'évoquer, était assez solide. Elle est recouverte de plomb, ce n'est pas un abri de jardin, en quelque sorte, mais bel et bien une construction tout à fait solide.
Et dans la perspective de recevoir la grande visite de son ami, on peut dire François Ier, il fait installer tout ce que vous venez d'évoquer, mais également il fait collection d'antiquités pour, j'imagine, impressionner le roi de France.
C'est difficile de dire que c'est pour l'impressionner. En tous les cas, ça participe des cadeaux qu'il va offrir à François Ier. Et entre autres, il demande à Cellini de faire le moulage de cette célèbre statuette antique qu'on appelle le Spinario, c'est-à-dire le tireur d'épines. Et donc, c'est Cellini qui va réaliser le moulage. Et par la suite, donc, Hippolyte va offrir le bronze à François Ier. Mais dans le cabinet du Grand Ferrare s'accumulent les pierres dures, les statuettes de bronze, les médailles impériales ou à l'effigie de François Ier, les tapisseries ferraraises ou flamandes. et aussi même des livres, hein, comme le livre de la chasse de Gaston Phébus, qui était du siècle précédent. Hein.
Donc c'était vraiment un connaisseur.
Oui, absolument.
Des antiquités et oui. des objets d'art.
Voilà, oui. C'est vraiment le retour de l'antiquité.
Il avait beaucoup de facettes. Il était le parfait courtisan, comme voilà. Nous l'avons dit au début de notre émission.
Faut pas oublier, j'ai oublié de moi. On parle souvent de peinture, tapisserie, architecture. N'oublions pas que Ferrare est aussi une ville de musique. Que ce soit le père ou le grand-père d'Hippolyte, ils partagent ce goût pour la musique et les plus grands musiciens vont être maîtres de chapelle d'Hippolyte. Je pense à Palestrina, par exemple, à cette époque.
Oui, oui,
et Hippolyte est toujours très attentif aux musiciens. Il va rétribuer les musiciens du roi pour les remercier d'avoir fait un concert. Et entre autres, il va aussi offrir de nombreux instruments à ses invités. On verra aussi que ce goût de la musique, il va le garder, et on peut dire qu'il l'a développé d'une autre façon, un petit peu plus curieuse, à travers les orgues du jardin de la Villa d'Est et des orgues hydrauliques, où là, ça n'est plus évidemment les instruments traditionnels qui jouent de la musique, mais c'est l'eau qui va être mise en œuvre pour jouer de la musique.
Oui, ça c'était à la fin de sa vie.
Voilà.
Mais pour l'instant, nous avons peut-être encore un côté d'Hippolyte que nous n'avons pas trop évoqué. Hippolyte, enfin cardinal. C'est un des panneaux que vous avez bien développé, et parlez-nous-en peut-être.
Ah oui, alors la conquête du chapeau cardinalis a été une aventure assez extraordinaire. Bon, peut-être qu'elle n'était pas originale, mais en tous les cas, elle est symptomatique des difficultés qu'on devait surmonter dans cette espèce de puzzle politique où les trahisons se succédaient aux grandes déclarations.
Et les intrigues.
Et les intrigues et les alliances se défaisaient à une rapidité extraordinaire. Alors, on va retrouver bien sûr le frère, hein, parmi les acteurs de cette pièce, Ercole II, qui n'a qu'une préoccupation. Lui, c'est récupérer les fiefs de Modène et de Reggio, que Jules II avait confisqué à ses aïeux quelques décennies plus tôt.
Le pape Jules II.
Mais le pape de cette époque, qui était Paul III, n'entend pas du tout restituer ces deux domaines, ces deux fiefs, qui dépendaient d'ailleurs de l'empereur. Vous voyez, la situation n'était pas simple. Et que le père d'Ercole avait récupéré en profitant du sac de Rome en 1527. Alors là, les négociations vont continuer pendant de nombreuses années et arrive donc la volonté d'Hippolyte de devenir cardinal. Alors on va mélanger les deux et le pape qui a besoin d'argent, faut pas oublier qu'à ce moment-là, on termine le jugement dernier dans la Sixtine. D'une façon générale, la basilique Saint-Pierre demande beaucoup d'argent et va trouver là l'occasion de faire, entre guillemets, de l'argent. Il va donc demander à Ercole une somme d'argent considérable pour lui restituer à la fois les fiefs de Modène et de Reggio et en même temps pour favoriser l'accès, évidemment, d'Hippolyte au titre de cardinal.
De son frère. Oui.
Alors les choses vont être horriblement compliquées parce qu'à un moment donné, Ercole décide d'abandonner exceptionnellement la maison de France pour retrouver l'empereur. Donc à ce moment-là, Hippolyte se retrouve en quelque sorte le favori de Charles Quint, ce qui ne peut évidemment que déplaire à François Ier, vous imaginez. Il a beaucoup de sympathie pour Hippolyte et il en a fait son candidat. Oui. Et il faudra attendre la paix de Nice où là, pour la première fois depuis longtemps, vont se rencontrer à la fois le pape, l'empereur Charles Quint et le roi, pour qu'effectivement le nom d'Hippolyte soit prononcé et que Hippolyte devienne effectivement, dans l'esprit de François Ier comme du pape, le futur cardinal qu'il sera en 1539.
Oui. Son ambition a été coupée court de devenir pape.
Oui.
Parce que, justement, il montre un peu trop de tolérance envers le mouvement la réforme.
Il a eu des situations très difficiles à gérer. Bon, pour aller très vite, on va le revoir en 1561, date importante pour l'histoire de France, c'est le colloque de Poissy qui est organisé donc par Catherine de Médicis en présence du jeune roi. C'est la dernière tentative de conciliation entre les réformés et les catholiques. À ce colloque de Poissy, le légat du pape n'est autre que Hippolyte d'Este. Donc on le voit très bien en cours, hein, finalement, à ce moment-là, auprès du pontife. Mais semble-t-il, son attitude ne sera pas jugée satisfaisante ni par le pape ni par Catherine de Médicis, qui va demander son rappel donc à Rome. Il faut dire que quelques mois plus tard, les massacres de Vassy, le massacre des protestants, vont pas arranger les choses, et Hippolyte donc va devoir retourner à Rome. Et c'est la fin effectivement des gens du milieu, des gens de la tolérance, et on peut dire que ce sont les extrémistes qui ont gagné. Et on s'en va rapidement vers la Saint-Barthélemy, qui marquera à la fois bien sûr les massacres qu'on connaît, mais aussi le fait du hasard peut-être, la mort d'Hippolyte à cette même date, en 1572.
Oui, donc il est rappelé en Italie, il manque d'obtenir le trône pontifical.
C'était déjà fini. Il avait déjà échoué à quasiment 3 reprises, on peut considérer comme tel. Et au contraire, cette situation devient très difficile à son retour, à tel point que le pape s'en débarrasse, comme vous le savez, puisqu'il va le nommer gouverneur de Tivoli. À ce titre, il va l'enfermer en quelque sorte.
Voilà, il va l'enfermer parce que
un gouverneur
n'a pas le droit de quitter sa province.
Il
est donc emprisonné dans ce bourg au nord de Rome, en tout cas à côté de Rome,
oui.
Tivoli.
Où il va construire le premier jeu de tennis, entre guillemets, en Italie. Là aussi, ça continue, malgré son âge, il continue à aimer la courte paume. Mais surtout, bien sûr, faire bâtir. Je pense qu'il avait effectivement beaucoup d'entre-gens et beaucoup d'importance dans les choix qui ont été faits pour les jardins de la Villa d'Este.
Voilà, les fameux jardins qui sont vraiment une curiosité extraordinaire, qui sont des jardins merveilleux. Ouais. Vous les connaissez ?
Moi, j'y suis passé il y a très longtemps, mais il paraît que j'y retourne assez rapidement parce que la restauration, entre autres, de toute la machinerie hydraulique est maintenant achevée.
Voilà, que vous veniez d'évoquer.
Voilà, et je suppose que le spectacle doit être tout à fait grandiose. Mais juste avant de terminer sur ces problèmes de religion, je voudrais aussi parler d'un autre personnage qui est René de France. On a évoqué tout à l'heure son mariage avec
qui était donc sa belle-sœur.
Sa belle-sœur, oui. Tout à fait, oui. Et René de France a une position tout à fait intéressante dans ce climat aussi d'intolérance. Elle aussi a essayé de concilier, je dirais, ce qui est devenu après inconciliable, mais qui aurait pu l'être. À Ferrare, elle a accueilli tous les gens qui étaient plus ou moins persécutés pour leurs idées religieuses. Elle les a accueillis au palais de Ferrare, et je pense entre autres à Clément Marot, dont elle fera son secrétaire. Et puis, chose quand même extraordinaire, elle va même abriter Jean Calvin. Donc elle prend des risques énormes, et elle est plus ou moins ostracisée dans un des palais qui se trouve en bordure du château de Ferrare. Elle vivra difficilement, et en 1559, à la mort de son mari, donc Hercule II, on lui demande de retourner le plus vite possible près de la maison de France, où là Catherine de Médicis ne la verra pas d'un bon œil et l'obligera à finir sa vie dans son château de Montargis, où elle continuera à accueillir aussi bien les gens poursuivis pour, que ce soit du côté de, je dirais, des réformés
elle aura
des
été
catholiques.
Elle aussi, comme Hippolyte,
voilà.
Un tout petit peu.
Ce ne sont pas deux destins semblables, en tous les cas deux destins qui se croisent. Avec des gens, je dirais, qui essayent d'être tolérants et qui vont être, comme ça l'est encore d'une façon générale dans notre histoire, victimes des jusqu'au boutistes, en quelque sorte, comme on les appelle maintenant, des extrémistes. Ces mêmes qui organiseront évidemment différents attentats pour ne pas que la conciliation puisse se faire, en tout cas.
Oui. Écoutez, c'est avec regret que nous quittons Hippolyte d'Este, ce personnage vraiment attachant. Un des hommes les plus cultivés, les plus érudits, les plus déconcertants aussi de son époque. Il aura incarné l'esprit et l'art de la Renaissance. Et un grand merci à vous, Jean-Marc Vasseur, qui avez si bien su nous le faire revivre. Bon retour dans les doux paysages de votre merveilleux domaine de Chaly. Au revoir.
Merci beaucoup et au revoir.